Il est probable que la mise en valeur des terres incultes, le défrichement, l'urbanisation ont aussi une incidence sur le climat.
Qui aurait pu prédire la vague d'inflation ainsi déclenchée, ou la crise climatique aux effets spectaculaires encore cet été dans notre pays?
Oh, c'est fou! Oh, l'esprit!
C'est le dernier rapport du GIEC, il dit, c'est pas moi et ma naïveté. On a les solutions, on peut mieux vivre.
La société qui organise nos déplacements est en train de voir si on peut pas se déplacer en char à voile.
The destruction of the entire planet isn't supposed to be fun.
On en a vraiment, vraiment plein le cul.
Bonjour et bienvenue à toutes et à tous dans Agissons, le magazine de la transition écologique. On se retrouve aujourd'hui pour le deuxième épisode de cette saison 5 et je co-anime aujourd'hui avec Manon.
Bonjour Magali, chers auditeurs et auditrices, et salut l'équipe. C'est la 24e émission d'Agissons.
24 émissions à décortiquer des concepts de la transition écologique, à vous donner des pistes pour agir et vous engager. Et pourtant, nous n'avions encore jamais dédié une émission à l'engagement.
Nous allons commencer par faire un petit tour d'horizon. L'engagement, c'est quoi? Mais aussi, qu'est-ce qui nous motive à nous engager? Magali, tu vas d'ailleurs nous parler de ce que les sciences sociales nous ont apporté sur ce qui nous pousse à nous engager.
Mais oui, parce qu'en fait, on peut presque être manipulé, mais pour des justes causes.
On enchaînera avec les difficultés que l'on peut rencontrer quand on est engagé. Il y en a.
Et deux Magali valent mieux qu'une. C'est une autre Magali qui nous parlera de ce qui se cache derrière la décrédibilisation des personnes engagées.
Et oui, je vous réserve ça pour tout à l'heure.
Et enfin, on abordera le sujet de la valorisation de nos engagements. Et pour ça, alors Manon et Marine, vous nous avez préparé un petit quelque chose.
Je dirais même une discussion enflammée.
Ça va être bien, ça va être très bien même. Et Magali, tu n'es pas venue toute seule aujourd'hui.
Mais non, je vous amène un invité très intéressant, puisqu'il est lui-même engagé. Et dans plusieurs projets. Mathis, bonjour.
Bonjour.
Alors Mathis, tu es étudiant en troisième année de droit et sciences politiques à l'Université catholique de Lille. Tu es engagé à différents niveaux. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Dans quel projet? Comment c'est venu? Dis-nous.
Bien sûr, avec plaisir. Bah, déjà, je suis ravi d'être avec vous aujourd'hui pour ce podcast, le premier sur l'engagement. C'est génial, je suis vraiment ravi d'être là. Alors, moi, oui, en effet, je suis même engagé depuis le lycée, donc je suis en troisième année de licence, donc ça fait quand même quelques temps, ça fait 5 ans. J'ai commencé à m'engager en 2019 pendant les grandes marches pour le climat, avec le mouvement de Greta Thunberg, Fridays for Future. J'ai ensuite tourné un peu mon engagement vers le plaidoyer, donc vers le fait de faire entendre la voix des jeunesses dans les espaces des décisions. J'ai un peu porté des projets au niveau européen, au niveau international aussi. J'ai suivi les négociations climatiques de la COP26 et la COP27. Et aujourd'hui, je suis le vice-président du RESES. Alors le RESES, qu'est-ce que c'est? C'est le réseau étudiant pour une société écologique et solidaire.
Eh, rien que ça. Et ben voilà pourquoi en fait Mathis est notre invité fil rouge de cette émission sur l'engagement.
Agissons. Agissons.
On vous parle aujourd'hui d'engagement. À l'origine, mettre en gage, un acte qui nous coûte. On va se concentrer plus précisément sur la définition qui est apparue en 45, celle d'acte ou d'attitude de l'intellectuel, de l'artiste, qui prenant conscience de son appartenance à la société et au monde de son temps, renonce à une position de simple spectateur et met sa pensée et son art au service d'une cause. Cette conception s'oppose donc à la simple recherche de beauté et de forme de l'art pour l'art.
Et donc, on tient ici plutôt de l'intellect. Au XIXe siècle, on parle d'ailleurs d'intellectuel engagé, avec par exemple Victor Hugo et son plaidoyer contre la peine de mort, dans Le dernier jour d'un condamné, paru en 1828, ou encore avec Émile Zola, dans J'accuse, en 1898, pour l'affaire Dreyfus.
Si l'intellectuel ne découvre pas constamment soi sa contradiction, si par conséquent il n'exerce pas constamment son métier d'intellectuel, du moins son métier de savant ou de technicien du savoir pratique, il est dans les nuages. Si au contraire, il continue à le faire, il se trouve dans une contradiction, parce qu'il faut à la fois qu'il témoigne pour tous de la contradiction qu'il a, puisque c'est la même que celle des autres, vécue sur un autre plan, autrement, mais c'est la même. Donc, il faut à la fois qu'il fasse son métier et qu'il s'engage dans la manifestation des contradictions de la société.
Vous avez reconnu? C'était Sartre qui évoque le terme d'intellectuel. Mais ce terme est-il encore sa place aujourd'hui, dans une société où tout le monde s'exprime? Il est peut-être un peu trop élitiste. Il n'y a pas que les intellects qui s'engagent, pas vrai?
Et d'ailleurs, Sartre est un philosophe existentialiste. C'est-à-dire que pour lui, l'existence humaine est absurde. Et ce sont les individus qui vont créer leur propre sens. Et pour lui, c'est l'engagement la clé de cette création de sens. L'engagement va passer par la prise de décision éthique. Et ce qui est fondamental, c'est qu'en faisant cela, l'individu soit conscient de sa propre liberté et de sa propre responsabilité, par opposition à se conformer à des normes sociales ou à des pressions extérieures.
La pensée de Sartre a donc évolué. Et selon lui, je cite, « L'intellectuel doit disparaître. Au fur et à mesure que la société sera plus démocratique, que les gens auront plus de temps pour penser, l'intellectuel n'aura plus rien à faire en tant qu'intellectuel. Ce n'est pas qu'on n'écrira plus de romans, plus de poèmes ou d'essais, mais ceux qui les écriront le feront comme un travail supplémentaire gratuit, et autrement, ils auront un métier pratique comme les autres. »
Et enfin, il conçoit maintenant de lier ce terme avec la notion d'écologie. Alors, chère équipe, vous vous engagez. Pour vous, c'est quoi l'engagement ? Mathis, je te sens prêt à répondre.
Alors pour moi, l'engagement, qu'est-ce que c'est ? C'est quelque chose de très vaste, parce que je pense qu'on peut être engagé pour soi-même, déjà, ce qui est assez réducteur par principe, mais je pense qu'on peut être engagé par soi-même et on peut être engagé pour les autres. Pour quelque chose d'ensemble, quelque chose de plus organique. Être engagé pour soi-même, c'est de chercher du sens, d'essayer de lutter contre quelque chose. Moi, je suis engagé pour autour des enjeux climatiques et environnementaux, aussi pour la place des jeunesses dans les espaces de décision. C'est quelque chose que j'ai toujours porté, c'est quelque chose qui me tient à cœur fondamentalement et ça me fait du bien en fait de m'engager voilà. Et puis pour les autres c'est ce qu'on considère dans le mouvement social, le fait d'agir en groupe et donc forcément c'est le fait de créer des liens, de se grouper pour essayer de construire des choses et porter des revendications et des convictions.
Mais d'ailleurs ce que tu dis, je trouve ça hyper intéressant, que c'est aussi à nous que ça fait du bien en fait de s'engager pour les autres. Alors c'est presque un peu égoïste, mais on l'entend, c'est une remarque qu'on entend beaucoup dans toutes les formes d'engagement et de bénévolat, où les gens disent je donne un peu et je reçois beaucoup, je reçois, et aussi ça me fait du bien en fait d'agir.
Et puis ça permet aussi d'être en accord, que nos actes soient en accord avec ce qu'on pense et qu'ils soient en accord avec nos valeurs. Je pense à l'environnement par exemple. Agir, ça peut aussi être agir dans son quotidien, donc agir individuellement, juste par une consommation plus responsable par exemple, et ça permet aussi très égoïstement et personnellement d'être en accord avec ce que l'on pense et ce que l'on revendique tout le temps quoi.
C'est très vrai d'ailleurs ce que tu viens de dire, c'est-à-dire qu'on parle de cet engagement collectif, mais il y a une infinité de manière de s'engager, de la plus petite action qui soit à la plus importante et la plus engageante, j'ai envie de dire, mais qui prend le plus d'énergie, de temps et de place dans notre vie. Et il y a un spectre infini de possibilités de s'engager sur une infinité de causes.
Ouais. Et je trouve aussi que nos engagements, ils évoluent avec le temps. Moi, c'est quand j'ai parlé d'engagement directement, Marine, tu m'as dit « bah ouais, bah, t'es végane ». Et en vrai, j'ai pas du tout, j'ai d'abord été végétarienne et tout, j'ai pas du tout vécu pareil. J'ai un peu d'abord été de bonne conscience justement parce que ça me faisait plaisir. Et c'est après qu'en fait, j'ai vu que c'était bien pour l'environnement et qu'en fait, c'était vraiment structurel et qu'il y avait ce truc en fait de collectif et que c'était pas juste un engagement individuel. Donc je trouve que même sur une trajectoire de vie, en fait, on n'a pas toujours le même engagement et on fait évoluer nos engagements, et on les vit pas toujours comme des engagements, parce que parfois, bah, c'est aussi ce que tu disais, ça fait juste partie de nous et de ce qu'on veut faire, et qu'on le pense pas forcément toujours comme un engagement.
Mais oui, d'ailleurs, parfois, le plus petit engagement peut, une fois qu'il est mis en commun, avoir justement un impact systémique beaucoup plus grand. Je pense, par exemple, au zéro déchet, qui a, à l'échelle individuelle, un impact assez faible, mais en fait, on se rend compte que, par l'effet de mode aussi, eh ben, y a quand même des industriels qui changent un petit peu leur façon de faire.
Ouais, et derrière ça, je pense qu'il y a aussi la question du militantisme. Pareil, si on est tout seul à militer, on ne va pas avoir un grand impact. Alors que si on est beaucoup, on peut faire pression et changer des décisions à plus haute valeur, je sais pas comment dire, à plus haute échelle.
Ouais, non, mais tout à fait.
Mais surtout que vous avez dit au début, on s'engage un peu tout seul au début parce que ça vient de nos tripes, on a envie de s'engager. Et puis quand on se rend compte qu'on est plusieurs dans la même cause, ça donne envie de s'engager encore plus loin et plus fort, et on sent qu'on n'est pas tout seul. C'est ça qui est important, s'engager collectivement.
Exactement. Et alors, je pense qu'on peut aussi parler de nos motivations. Parce que en fait, l'engagement, il n'est pas forcément inné.
Ouais. D'où il vient ? Comment ça se fait qu'on a envie de s'engager ?
Je vais prendre pour la première fois la décision la plus difficile de ma vie. Je ne veux plus me mentir. Je ne veux pas donner l'illusion que ma présence au gouvernement signifie qu'on est à la hauteur sur ces enjeux-là. Et donc, je prends la décision de quitter le gouvernement.
Aujourd'hui.
Vous êtes sérieux, là ?
Oui, je suis sérieux.
Je tiens à préciser que vous ne l'aviez absolument pas dit avant de rentrer dans ce studio. Bien au contraire.
C'est la décision la plus douloureuse, que personne n'en tire profit, parce que la responsabilité, elle est collégiale, elle est collective, elle est sociétale.
Les émotions peuvent être un réel catalyseur d'engagement, à l'image de la tristesse ou la colère qu'a pu susciter la démission de Nicolas Hulot, annoncée en direct sur France Inter le 28 août 2018, et qui est à l'origine des marches pour le climat en France. Suite à cette écoute, il y a un certain Maxime Lelon qui espérait voir une réponse citoyenne. Il a cherché un peu sur les réseaux sociaux, il a vu que rien ne se passait, et ça lui a donné envie de créer l'événement Facebook intitulé Marche pour le climat, qui a été rejoint par plusieurs associations de défense du climat. Et apparemment, il y avait plus de 70% de nouvelles recrues dans l'organisation à ce moment-là. Donc une véritable envie de s'engager. Et en plus, tu en parlais tout à l'heure, Mathis, toi aussi, c'est un peu comme ça que tu as commencé à t'engager par les marches. Et je trouvais que c'était une bonne façon d'introduire cette discussion, de parler des émotions en fait, qui nous font réagir et qui nous font vouloir s'engager. Toi, tu te rappelles de ce qui t'a motivé à te dire « ça y est, il faut que je fasse quelque chose ».
Moi, je m'en rappelle et je m'en rappelle même très bien. Parce que le déclic que j'ai eu, il y a quelques événements mineurs qui se sont passés un peu avant, mais l'événement majeur qui m'a vraiment fait réaliser que j'avais envie de m'engager et qu'il fallait même m'engager, c'était le 15 mars 2019, la première grande marche pour le climat en France, où il y a... Je ne m'y suis pas déplacé personnellement, puisque bon, je viens d'un lycée de campagne, et donc il n'y avait pas de marche à côté de chez moi. Mais je me revois encore rentrer chez mes parents et regarder l'émission quotidienne d'Yann Barthès avec, sur le plateau, des activistes qu'on connaît bien maintenant, Greta Thunberg, Adélaïde Charlier, qui est une activiste belge, et Martial Breton, qui est un des créateurs de News for Climate, Fridays for Future en France. Et on voyait ces images de jeunes qui avaient mon âge, qui ont fait l'acte politique qui est le plus politique qui soit quand on n'a pas le droit de vote et qu'on a 16 ans, c'est-à-dire sécher les cours pour descendre dans la rue, et qui clament haut et fort tous ensemble. Et partout en France, il y avait des chiffres immenses de personnes dans les rues à Paris et ailleurs pour crier et dénoncer l'inaction climatique du gouvernement. Quand j'ai vu ça, je me suis vraiment dit, il y a quelque chose. Je n'étais pas forcément vraiment conscient des enjeux, ni même, j'ai dû me former par la suite, et le mouvement social et l'organisation collective sert à ça, je pense aussi. J'ai dû me former, j'ai pu, mais je me suis dit, il faut que je fasse quelque chose, et je me suis lancé, et voilà, 5 ans après.
Te voilà dans Agissons, pour parler de tes 5 ans d'agissement.
Tout à fait.
D'engagement, et alors Lucie, on en parlait un petit peu, tu disais que toi aussi tu te souvenais du moment de la démission de Nicolas Hulot.
Oui, je m'en souviens très très bien, c'était très précis. J'étais à ce moment-là dans une rencontre entre des coopératives d'activité et d'emploi. Donc c'était une rencontre intercoopérative. Et ça, c'est arrivé. Alors clairement, quand on est là-bas, c'est un peu un microcosme. On pense beaucoup. En fait, on participe pendant une semaine à penser ensemble et réfléchir ensemble. Imaginez le privilège et la chance que c'est aujourd'hui dans l'état de notre monde et en crise, etc., de réfléchir ensemble à qu'est-ce qui est bon pour travailler ensemble, etc. Enfin, je vous passe tous les détails des sujets passionnants qu'on peut aborder là-bas. Mais donc on est un peu hors du monde quelque part. Enfin, c'est à chacun et à chacune de se dire est-ce que je m'informe en parallèle sur l'actualité du monde à côté de notre microcosme ou pas. En tout cas, moi j'étais un peu détachée, mais cette information est quand même venue à nos oreilles parce que c'était quand même pas rien. Parce que c'est quand même un environnement assez engagé écologiquement. Et j'ai appris ça, et je vous assure que c'est étrange, mais c'est vrai. Je revenais d'une pause à la plage, en train de ramasser des déchets, des mégots dans le sable, alors que tout le monde me regardait, genre, c'est qui cette éberluée, que c'était important pour moi, même dans les rochers, j'enlevais des bouteilles plastiques, enfin bref. Et en rentrant de ça, on m'apprend cette démission. Et là, Bah, en fait, c'est un peu s'il y avait, comme s'il y avait un blackout dans mon cerveau. J'ai pas compris ce qui se passait et je me suis dit, mais en fait, c'est déjà perdu, quoi. J'étais très désabusée et en même temps, j'ai pas eu envie de me laisser aller là-dedans, mais en tout cas, ça, je pense que ça a ancré quelque chose en moi de, en fait, faut pas lâcher, faut continuer à être ensemble et à avancer parce que sinon, on fera plus rien, quoi, en gros.
Toi, Marine, tu te souviens de l'émotion ou de ce qui s'est passé là, pourquoi t'as décidé de t'engager?
Alors, je me souviens pas du moment où je me suis engagée, mais je pense que ça a été un cheminement, on va dire. Et je pense que ça a beaucoup été aussi favorisé par des rencontres, des discussions que j'ai eues, notamment quand j'ai commencé mes études dans l'enseignement supérieur, donc à la fac, et aussi mes cours, puisque j'ai fait de la sociologie et de la philosophie. Donc, c'est quand même... voilà, on parle beaucoup de comment réfléchir au monde, tout ça. Et je pense que mon engagement est vraiment apparu au fil des discussions avec mes camarades, avec des gens qui étaient déjà très engagés et qui m'ont poussé à m'engager et à aller manifester, à aller à réfléchir en fait à ce qui se passait, à ce dont on avait envie aussi, à comment on avait envie d'améliorer les choses, je pense.
Ouais, c'est marrant, c'est mes études aussi, sauf que mes études, elles n'avaient rien à voir parce que j'ai fait du marketing. Et c'est après que je me suis dit, mais en fait, c'est totalement n'importe quoi comme étude. Comment on peut faire créer des besoins chez les gens qui n'existent pas pour leur faire acheter des choses dont ils n'ont pas besoin. Et là, je me suis dit, ok, d'accord, le monde ne va pas bien, on va faire quelque chose.
Mais alors, c'est marrant parce que c'est vrai que là, du coup, on a un exemple avec toi, Mathis, où c'est... Bon, alors j'imagine qu'il y avait déjà une sensibilité avant cette fois-là et que c'était un peu la cerise sur le gâteau, un déclic. Et on voit que parfois, en fait, l'engagement, il grandit petit à petit. Moi, je suis rentrée dans l'écologie par un biais très bizarre. C'est, en fait, je cherchais des produits pour mes cheveux, pour qu'ils frisent bien et que voilà et qu'ils soient le plus efficaces possible. Et j'ai compris que dans les shampoings, dans les produits cosmétiques, il y avait plein de produits chimiques. Et donc, je suis arrivée au zéro déchet. Et en fait, quand tu arrives à la pollution plastique, okay, à la pollution des océans, bah, en fait, c'est un peu, tu tires un petit fil d'un pull en laine et puis tu détricotes absolument tout le pull. Et donc, ça s'est fait vraiment petit à petit. Donc, il ne faut jamais sous-estimer un petit engagement qui naît chez quelqu'un.
Bon, ça fait du bien de voir combien vous êtes motivés. Mais d'ailleurs, Magali, toi, tu te posais une question. Comment on motive les gens à s'engager?
Agissons. 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 Agissons.
Oui, et bien en fait, je me suis toujours demandé comment il était possible d'engager le plus grand nombre dans des actions vertueuses pour l'environnement et donc de changer des comportements sur le long terme. Alors grand bien m'en fasse, j'étais pas du tout la première à me poser la question et c'est tant mieux. Donc on va essayer de résumer un petit peu ce que la science a à nous apprendre à ce sujet. Donc les recherches ont montré plusieurs choses. D'une part, faire preuve d'autorité, ben, ça fonctionne, mais seulement sur le moment où on va exercer la pression. On va pas changer d'état d'esprit. On peut aussi associer ça à une certaine contrainte. Si je suis contrainte d'aller dans un resto végétarien, qu'il n'y a rien autour, bah c'est pas pour autant que je vais changer mon régime alimentaire si d'habitude j'ai un régime carné. La persuasion aussi, ça peut être un autre recours. On fait ici plutôt appel au sentiment des personnes. Ça peut fonctionner, on peut réussir tout à fait à persuader quelqu'un du bien fondé d'une action, mais ça va pas forcément se transformer en acte. Je peux être d'accord avec le fait que manger végétarien, c'est bon pour ma santé, bon pour l'environnement, le bien-être animal. Mais le passage à l'acte ne va pas forcément se faire. Un fumeur, il peut tout à fait être d'accord avec des messages de prévention sans pour autant changer d'attitude. C'est pas forcément assez. Et c'est là que la psychologie sociale entre en jeu avec une carte forte, la théorie de l'engagement et tous les processus d'influence qui vont avec. Alors l'approche va changer radicalement car c'est l'idée que ce n'est pas la pensée qui préfigure l'acte, c'est-à-dire que c'est pas parce qu'on pense de telle manière qu'on agit forcément de cette manière-là, mais c'est plutôt l'inverse, c'est-à-dire que l'acte va influencer notre façon de penser. C'est ce qu'on appelle en fait l'effet de gel. Et ça vient des travaux de Kurt Lewin, repris ensuite par Kessler. Bon, on vous mettra les ressources comme d'habitude sur agissons.ovh. Et donc ça pourrait se résumer ainsi. La réalisation d'un acte tient moins d'une décision sur l'instant que de la comparaison de cette action avec un autre acte similaire dans le passé. Et ça permet en fait de comprendre pourquoi certains individus s'accrochent à des décisions, à des comportements et ont des difficultés à revenir en arrière sur leurs choix. Par exemple, quand on décide de ne pas changer de file d'attente alors qu'on voit bien que celle d'à côté avance plus vite, ou alors de continuer à prendre l'avion tous les étés parce que de toute façon on a toujours fait comme ça et que c'est plus simple pour notre psychologie de rester totalement cohérent avec nos actes passés.
Mais on se rend compte d'une chose, c'est que si on réussit à faire agir les gens vers un comportement vertueux, on va pouvoir en fait influencer leurs pensées et donc rendre ce comportement durable. Et donc comment on fait ? Et ben, tout d'abord, il y a l'acte préparatoire. C'est-à-dire que il y a plusieurs techniques en fait pour mettre en place des actes préparatoires. Par exemple, demander quelque chose de très coûteux à quelqu'un. S'il te plaît chérie, cette robe éthique, attention, est magnifique pour une robe à 1000 euros. Dans l'espoir que notre seconde requête paraisse dérisoire. Bon, tant pis pour la robe, mais as-tu vu cette écharpe à seulement 70 euros ? Cela peut être l'inverse, y aller crescendo. Et une expérience comme ça a été réalisée auprès de propriétaires de pavillons d'une banlieue. Dans un premier temps, quelqu'un est passé pour leur proposer d'afficher un autocollant sur leur fenêtre ou de signer une pétition. Dans certains cas, c'était au sujet de la prévention routière, dans d'autres sur l'écologie pour garder la région propre. Puis, deux semaines plus tard, aux personnes qui ont dit oui, une autre personne est passée en leur demandant si elles accepteraient la pose d'un panneau dans leur jardin, un panneau bien costaud, bien moche, en faveur de la prévention routière ou de la préservation de la nature. Bien sûr, il y a eu un groupe témoin hein, qui n'avait pas du tout été soumis à l'acte préparatoire et les résultats sont assez étonnants. C'est que dans le cas de la sécurité routière ou de la préservation de la nature, 47% des personnes sollicitées qui avaient d'abord été soumises à un acte préparatoire ont accepté la pose du panneau. Alors que pour le groupe témoin, c'est seulement 16%. Et pourquoi ça a marché ? Eh bien, la psychologie sociale nous explique qu'il y a plusieurs raisons à ça. Donc, d'une part, l'acte préparatoire, mais aussi parce que, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est qu'on va comparer un acte à une action similaire réalisée dans le passé. J'avais déjà accepté de signer la pétition pour l'écologie. J'accepte aujourd'hui d'aller un petit peu plus loin en posant le panneau. Et un autre aspect fondamental, c'est la liberté de ces personnes dans leur choix. Elles n'ont jamais été contraintes et jamais personne ne leur a proposé une récompense. Pour accepter ces personnes, elles ont alors dû puiser en elles les raisons d'agir. C'est ce qu'on appelle la soumission librement consentie. Et ce qui est encore plus fort, attention, c'est qu'avec l'acte préparatoire, c'est que dans le cas où on avait affaire à quelqu'un qui n'en a pas grand-chose à faire de l'environnement, oui, ça existe, et qui n'avait pas forcément l'intention d'agir pour X raisons, oui, les riches ne font pas d'efforts, c'est qu'en acceptant une action dérisoire, l'autocollant, ou signer une pétition, puis en acceptant le panneau, parce qu'au fond, bon, bah, ils avaient déjà accepté de signer la pétition, eh bien, pour ne pas entrer dans une dissonance cognitive, ils vont changer leur propre perception de l'écologie et de l'action. Ça, c'est fort. Et il y a d'autres expériences comme ça qui ont été menées, où dans un milieu donné, une école, une maison de retraite, une entreprise, on commençait par proposer aux personnes de s'engager sur une période donnée dans une action vertueuse pour l'environnement, et passé la période d'engagement, on voyait que le comportement persistait. Alors, plusieurs variables ont été testées, mais moi, ça me fait aussi beaucoup penser à un événement qui a lieu bientôt, par exemple, à Mets à vélo, dans la métropole lilloise, qui associe ça en plus à un challenge où en fait on propose en entreprise à ce que le plus de salariés participent à ce challenge, je vais y arriver, et viennent travailler à vélo. Et on leur propose donc de s'engager sur une courte période pour que l'action leur semble finalement être une possibilité une fois l'engagement passé. Alors, il y a plein de procédés comme ça, ceux que je viens de citer qui existent et qui ont fait l'objet d'expériences, notamment pour faire adopter des comportements vertueux pour l'environnement, la communication engageante, les nudges, donc je laisse le loisir aux gens de chercher ce que c'est, avec des choses très spécifiques mises en place pour aider à la décision. Mais moi, ce que je trouve hyper intéressant là-dedans, c'est qu'on joue à la fois sur la manipulation et en même temps, bah, c'est pour l'écologie. Et éthiquement, je trouve ça assez fascinant.
Intéressant. Mathis, une réaction ?
Intéressant. Je ne connaissais pas du tout, ce que tu viens de raconter sur la psychologie sociale. C'est vraiment très très intéressant et ça me fait penser à quelque chose, notamment quand on est militant, souvent quand on revendique justement un engagement. On travaille beaucoup sur la sensibilisation et notamment en matière environnementale, on se base énormément sur la science. Et ça me faisait réagir. Le GIEC les personnes reprenant les paroles du GIEC utilisent souvent la peur ou utilisent les sentiments pour essayer de convaincre, de persuader. La limite
du coup, de persuader, ouais, c'est les sentiments.
La limite est fine, jouer sur les sentiments. Et on s'aperçoit que chez certaines personnes, il y a une réelle prise de conscience. Où cette peur peut, enfin, ce sentiment de peur peut se transformer en mobilisation, mais chez d'autres personnes, on peut tomber directement dans justement quelque chose qui tétanise,
le déni,
quelque chose qui empêche d'avancer, voire même une troisième réaction qu'on remarque, et j'ai malheureusement envie de dire de plus en plus, c'est un discrédit, c'est-à-dire que au lieu de rester neutre et passif, on va rentrer dans le discrédit en disant je rejette tout ce qui a été dit et je vais aller à l'encontre de l'action dans laquelle on veut m'emmener. Et donc c'est extrêmement intéressant de ce processus-là qui est utilisé partout finalement.
Mais cet aspect-là, on le retrouve dans le fait que parfois quand ça rentre trop en dissonance cognitive, et justement on vient carrément à agir contre, en fait.
C'est absurde.
Mais oui, non, mais c'est ça, c'est fou.
Bon, il est temps de digérer toutes ces petites informations avec une musique choisie par Mathis. Je t'ai choisi une chanson qui s'appelle It's the end of the world as we know it.
Il en avait choisi trois. And I feel fine.
Donc
c'est celle-ci qu'on a choisie de REM. On écoute. That's great. It starts with an earthquake. Birds and snakes and aeroplane. Lenny Bruce is not afraid. I have a hurricane. Listen to yourself.
Yeah.
On se retrouve pour la deuxième partie de l'émission Agissons, le magazine de la transition écologique dédié aujourd'hui à l'engagement.
Agissons.
Agissons. Agissons. Agissons.
Mais comment ça on est coupé ? Et spécifiquement à l'engagement écologique.
Bon, jusqu'ici, on a parlé de nos différents engagements écologiques, des raisons qui nous ont poussés à nous mettre en action, mais on aimerait aussi aborder la question des difficultés à rester engagé.
Mais oui, mais franchement, c'est pas facile. C'est pas facile tous les jours de rester engagé. Moi, l'autre jour, j'en parle souvent avec des amis. Et j'ai un ami l'autre jour qui m'a dit « Mais ça te dérange pas de voir nos photos en Thaïlande alors que toi, t'essayes de pas prendre l'avion ?» Je l'ai regardé, j'ai dit « Ben si !» Évidemment. Mais alors d'un côté, ça me fait plaisir pour vous, profitez. Mais oui, moi, c'est vrai que ça veut pas dire que j'irai jamais en Thaïlande, mais ça veut dire que je me pose 10 000 fois plus de questions que eux pour si un jour j'y vais, quoi. Et donc non, en fait, c'est vrai que c'est pas tous les jours facile. C'est plus facile quand on est entouré aussi de gens qui ont le même engagement que avec certains groupes d'amis où on est obligé de faire des concessions en se disant allez, je vais rien dire parce que je vais encore passer pour la chieuse écolo. Mais c'est vrai que c'est pas tout le temps facile. Et d'ailleurs, toi Lucie, je sens que tu en as gros sur la patate.
Oui. Un petit peu, oui. J'en ai un petit peu gros sur la patate. Et donc, en fait, l'objectif de mon petit coup de gueule, on peut le dire, c'est juste de replacer un peu l'engagement écologique à l'échelle du concret de nos vies, à chacun de nous tous et toutes. Parce que clairement, aujourd'hui, on peut s'engager dans l'armée, on peut être engagé dans une entreprise. Quand on est à la direction d'une entreprise, on peut engager quelqu'un, on peut engager des poursuites contre quelqu'un, on peut s'engager de manière caritative. Alors des fois même pour la bonne conscience, en envoyant quelques euros à Greenpeace, par exemple. On peut s'engager dans une asso de quartier, s'engager sur un passage piéton. Bon, certaines, avec l'espoir vain de trouver un travail en traversant le trottoir, mais ça, c'est un autre sujet. S'engager en politique pour participer à minima à la vie de sa ville. Bon, bref, vous l'avez compris, dans l'idée, on ne s'en rend pas forcément compte, mais au quotidien, on s'engage de toutes parts. Et là, en plus de tous ces engagements invisibles, inconscients de beaucoup de personnes, en fait, comme moi, hein, en fait, clairement, certains et certaines se payent le luxe de s'engager pour des idées, de défendre des droits à l'égalité entre les genres, la baisse des salaires, du pouvoir d'achat, contre la politique du gouvernement, pour la paix. Pour la paix ? Non mais le melon, quoi. Non mais excusez-moi, mais qui aujourd'hui peut prétendre œuvrer pour la paix sérieusement ? Avant nous, il y a eu plusieurs prix Nobel, et il y a toujours la guerre. Hein. Bon, bref, je suis un petit peu impertinent, mais vous avez compris là où je veux en venir. Bon, du haut de nos gambettes, on peut aussi, comme vous l'avez évoqué, aller militer dans la rue contre le climat, etc. Enfin, le dérèglement climatique, qu'on s'entende. Se regrouper pour défendre nos idées, partager nos valeurs, c'est très louable. Et par ce biais-là, évidemment, vous pouvez me dire, oui, mais là, on renforce nos convictions, on se donne de l'énergie, on contribue à défendre une idée, à la faire vivre, pour nous, pour nos pères et les générations à venir. Oui, vous avez totalement raison, et comme le disait tout à l'heure Mathis, ça, c'est ce que, un peu, moi, j'appelle s'engager pour les autres, hein. Mais aussi, il ne faut pas oublier ce que Mathis a dit très justement, qu'on peut aussi engager déjà pour soi-même. Par exemple, moi, à mon échelle, je vais petit à petit vers le zéro déchet. Et ça me rajoute, oui, une charge mentale qui est bien souvent, rappelons-le, sans vouloir faire parler entre les genres, revient aux femmes, souvent. Parce que ça rajoute une sous-charge mentale à la grosse charge mentale de qu'est-ce que est être écologiste aujourd'hui dans nos actes de la vie quotidienne, pas manger trop de viande, pas trop manger de saucissons à des apéros des fois, parce qu'en fait c'est pas bien, mais même si on en a envie, on le fait pas, fabriquer sa lessive, enfin bref, je vous passe tous les détails. Donc oui, effectivement, ça prend de la place, mais ça force aussi à toutes les personnes qui partagent ces choses-là et ces difficultés au quotidien à s'identifier, se reconnaître, se rassurer entre elles. Et il ne faut pas oublier non plus quand même, on reste humain et humaine. On fait ce qu'on peut dans un contexte sociétalement un peu difficile, hostile, à plusieurs niveaux. On tente de vivre tout simplement en fait, de se réaliser, d'être aligné, d'être qui nous sommes, de faire au mieux avec ce qu'on a, avec qui on est, avec nos armes, notre passé, nos expériences, notre fonctionnement, notre tempérament, nos ambitions, le temps qu'on accorde à nos amis, etc., etc. Et je pense que déjà, composer avec tout ça quotidiennement,
ça me paraît déjà être assez énergivore, en fait. Faut pas oublier tout ça. Parce que si on ajoute tout ça à toutes les sollicitations visuelles, publicitaires, de vidéos, de films, de reportages, de concerts, de contenus audio, tels que cette émission d'ailleurs, ça fait beaucoup, beaucoup de choses en fait au quotidien. Sans oublier aussi les sorties et faire la fête de temps en temps, aller voir quelques expos évidemment. Donc j'ai bien conscience de ce que je suis en train de vous dire. Je ne suis pas la première à le dire. Certaines personnes l'ont déjà fait, c'est un peu dépensif, enfoncer des portes ouvertes pour certains et certaines. Mais là aussi, gardez vos proportions. On n'évolue pas tous et toutes de la même manière, au même rythme, dans le même environnement, dans le même microcosme. Remettre en perspective ne fait jamais de mal. Avancer à notre propre rythme, dans nos directions, c'est aussi se laisser des opportunités de regagner de la force et pas juste voir, d'être disponible, à l'écoute, attentif à tout ce qui se passe autour de nous pour mieux comprendre ce que l'on fait et ce que l'on vit. Ralentir finalement pour mieux ressentir et non pas par flemme ou laisser aller. Je vous laisse avec cette phrase pour commencer à méditer. Et dernière petite chose, je reprends mon autre papier. Parfois, bien s'engager aussi dans nos causes, c'est savoir se retirer, se mettre en retrait. Quand on est fatigué, malade, pas bien ou juste qu'on n'a pas envie pour une raison ou pour une autre, ben, je pense qu'il ne faut pas se forcer en fait. Par respect pour notre engagement déjà et aussi par respect pour les autres. Donc parfois, mieux vaut s'abstenir pour mieux servir notre ou nos causes. Voilà ma petite patate aujourd'hui. Et surtout, n'ayez pas honte d'en avoir marre.
Merci Lucie.
Merci Lucie. Et du coup, ça me fait penser un petit peu au burn-out militant, ce que tu disais. C'est vrai qu'on en entend parfois parler, c'est-à-dire qu'à force de vouloir d'être hyper engagé à la fois dans son travail, mais aussi en fait en rentrant chez soi, on garde ses engagements, on garde ses convictions, et c'est tout le temps.
Ouais. D'avoir l'impression aussi de ne pas être efficace et de ne pas arriver justement à mener ses engagements, à les faire réussir, ça peut être aussi une cause un peu d'anxiété, de
fatigue.
De déprime, de fatigue, et ça peut mener à un burn-out. Donc... C'est vrai que ça renvoie pas mal à ça.
D'autant qu'en fait, il y a quand même pas mal de jugements. Je parlais tout à l'heure de proches hein, qui sont parfois moins engagés, mais si t'as le malheur de faire un truc qui correspond pas à l'image écolo qu'ils ont de toi, t'inquiète pas qu'ils vont te le dire. Et parfois même de la part d'autres militants. On appelle ça la pureté militante. Est-ce que Mathis, toi, ça t'est déjà arrivé de subir ça, ou même finalement d'autres proches qui étaient moins engagés?
Ah bah c'est dans le parcours du militant,
du parfait militant.
On se rend compte que comme tu l'as dit, que ce soit à l'extérieur des personnes du groupe des personnes engagées, voire même à l'intérieur, et je pense même que c'est les remarques qu'on peut avoir des personnes déjà engagées avec qui on est sensiblement en confiance, et on peut avoir des reproches en disant oui mais tu peux pas porter telle ou telle cause si tu fais telle ou telle chose. Forcément ça fait un peu mal, surtout qu'en fait il y a une phrase que j'aime bien, qui est un peu sortie du contexte de tout ça, mais qui touche vraiment au sujet. C'est une phrase de Jean Renoir dans un film de 1939 qui s'appelle La règle du jeu, qui s'appelle il dit ce qui est terrible dans ce monde, c'est que chacun a ses raisons. C'est-à-dire que chacun a ses raisons d'agir ou de ne pas agir. Et en tant que militant, si on souhaite vouloir essayer de changer les comportements autour de nous, eh bien, il faut entendre que chacun et chacune ait des raisons d'agir ou de ne pas agir. Ce n'est pas en les invectivant, en leur faisant des reproches et en les culpabilisant qu'on arrivera à les faire avancer. Il faut entendre ses raisons, aller à la source, et d'essayer d'avancer.
Ouais, mais et justement, est-ce que c'est pas aussi une stratégie pour décrédibiliser les engagements? Eh bien, on voit ça tout de suite avec toi, Magali.
Ouais,
L'autre Magali.
L'autre numéro 2. Alors moi, aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler décrédibilisation de l'engagement. La décrédibilisation de l'engagement, c'est quoi? On en a déjà un petit peu parlé tous et toutes à travers nos expériences personnelles, mais la décrédibilisation de l'engagement, au-delà quand même d'une expression assez compliquée à prononcer et que je prononce pour la troisième fois dans ce début de chronique, c'est quelque chose d'assez fréquent malheureusement, notamment dans les médias, dans les réseaux sociaux, en ligne, au travail, auprès de ses proches, un peu partout, et ça passe par différents procédés. Moi, pour vous parler de ça, je voulais prendre l'exemple de MC Danse pour le Climat.
C'est le surnom sur Internet de Mathilde Caillard, une activiste environnementale auprès d'Alternativa Paris. Alors moi, j'ai eu la chance de la croiser quelques fois en manif parce que ça fait maintenant plusieurs années qu'elle danse pour le climat. Mais récemment, on a beaucoup entendu parler d'elle sur les réseaux sociaux et notamment pour cette chanson.
Même combat sur une planète brûlée.
Voilà, alors là, certainement que vous me détestez parce que vous allez l'avoir en tête toute la journée, certes.
Mais pour la bonne cause.
Pour la bonne cause, déjà. Et puis, surtout, si vous avez entendu parler d'elle, au-delà de cette chanson sur les retraites, vous avez certainement dû voir passer ou entendre pléthore de remarques annexes. Le fait qu'elle porte une ceinture Gucci, soi-disant.
Oui, et c'est famille... pas vrai d'ailleurs.
Oui, ça n'est même pas une ceinture Gucci, ça a été démenti. Sa famille, le fait qu'elle soit trop bourgeoise pour s'engager, vraiment tout y est passé pour disqualifier ses engagements pour l'environnement. Et ça, bah malheureusement, c'est pas très étonnant. Prenons une autre figure iconique, je n'ai pas peur de le dire, de l'environnement, Greta Thunberg. Greta Thunberg, c'est quelqu'un de hyper calé. Donc quand elle parle chiffres, elle parle stats, elle parle rapports scientifiques. Donc bien sûr, c'est plus facile de s'attaquer à sa personne pour la décrédibiliser que de se taper des centaines et des centaines de pages de rapports du GIEC. Il y a un chercheur d'ailleurs qui s'est intéressé à ça, c'est Albin Wagner. Albin Wagner, il a étudié, il a comparé de nombreux articles qui sont issus un peu de toutes parts et qui parlaient de Greta Thunberg. Et ce qu'il montre, c'est qu'à chaque fois, on en revient toujours à parler de sa personne. Et là, vraiment, tout y passe, le fait qu'elle soit jeune, le fait qu'elle soit Asperger, mais alors, un des plus grands alliés à la décrédibilisation, vraiment un allié de taille, toujours présent, qui répond à tous les appels, c'est... la misogynie. Vraiment, la misogynie, c'est très utile pour décrédibiliser les femmes qui s'engagent pour l'environnement, et ça, mais alors, peu importe leur âge.
Mais Sandrine Rousseau, c'est vrai, vous avez raison, Thomas, il y a un phénomène de radicalité, de sorte qu'à la ronde.
Qui est pleinement assumé. Hein.
Pleinement assumé. Là, on a l'impression, si vous l'écoutez, on a l'impression d'une illuminée, on a l'impression que c'est la folie verte. C'est une sorte de Greta Thunberg ménopausée.
Oh voilà. Là, non mais c'est ouais. Fou hein, quand on entend ça.
Ouais. Donc Sandrine Rousseau, c'est Greta Thunberg ménopausée, c'est la folie verte. Vraiment, la misogynie, c'est un truc de flemmard.
Quelle honte hein, d'être ménopausée. Oh là là. La...
Donc voilà. Mais la misogynie, ça sert bien aux flemmards parce que avec la misogynie, tu décrédibilises en deux mots tes adversaires. Donc n'hésitez pas. Tu n'attends plus rien. Tu envoies un mot folle, hystérique, même ménopausée au 36-30 et tu décrédibilises toute femme qui cherche à s'engager pour l'environnement. Sinon, ces derniers temps, ce qu'on entend pour décrédibiliser les activistes environnementaux, c'est tout aussi ridicule. Et là, on a la Sainte Trinité à la rescousse. Ultra-gauche, radicalisée, extrémiste, ça marche très bien pour décrédibiliser une personne, encore une fois. Prenons l'exemple de Serge, un militant qui était présent à Sainte-Soline et qui a mis sa vie en danger pour le bien commun que représente l'eau. Vraiment, il a mis sa vie en danger puisque son pronostic vital a été engagé. Et dans certains médias, on parle de lui comme ça.
Quand on voit la tête des blessés en question qui sont fichés S de l'ultra-gauche et qui utilisent des cocktails Molotov, comme je dis, mon stock compassionnel est trop limité pour les plaindre.
Moi, j'aimerais plutôt dénoncer les radicalisés du capitalisme, les extrémistes du néolibéralisme qui détruisent impunément la planète. Mais au lieu de ça, sur certains médias, encore et toujours, c'est pas de ça dont on s'inquiète.
Vous aviez été notamment parmi ceux qui avaient bloqué l'A13 au moment de Pâques pour interpeller... Là, vous avez bien vu face à vous que vous aviez suscité une forme de découragement, même de colère des usagers qui étaient dans leur voiture, qui sont sortis de la voiture et qui ont dit « mais laissez-nous juste aller bosser, quoi ».
Ouais, mais c'est très différent. La colère sur le moment et le découragement, ça n'a rien à voir. C'est-à-dire que la plupart des personnes comprennent...
J'ai l'impression de toute façon que vous ne m'écoutez pas, donc je peux vous poser des questions, mais alors vous...
Mais en fait,
vous êtes dans votre TGV, là.
Aucun média nous écoute non plus, donc en fait, moi, là, j'ai aussi envie de dire ce qui est en train de se...
Faites ce que vous voulez, quoi, en fait.
Je suis juste en train aussi de répondre à vos questions, d'une certaine manière, mais juste écoutez ce qu'on a réellement à dire.
Voilà, écoutez ce qu'on a réellement à le dire. Ça fait plaisir de voir que quand on interroge des militants et des militantes sur leur engagement, là en l'occurrence c'était Sacha, une militante du mouvement Dernière Rénovation, et elle venait parler d'une action non violente de blocage de route. Donc quand on interroge des gens qui a priori sont là pour parler de l'environnement, des conséquences néfastes de nos modes de vie, des rapports scientifiques nombreux qui l'évoquent, eh ben, on les interroge sur la colère des usagers de la route. Ouais. Alors ça paraît un peu lunaire, Mais c'est vraiment ce qui se passe sur des chaînes comme CNews ou RMC. Et en attendant, si tout ça c'est un peu déprimant, ça nous rappelle que heureusement, il existe des médias comme RPL pour parler d'écologie.
Ah, merci. Mais ça fout un peu les chocottes. Je trouve
un peu les chocottes.
C'est le moins qu'on puisse dire.
Ce que tu nous dis. Lucie, tu voulais, ça t'a fait penser à quelque chose ?
Oui, ça m'a fait penser quand tu parlais de, des capitalistes enragés, ou je ne sais plus quel terme, enfin bon, on a compris l'idée, qu'en plus, ces personnes-là se permettent de qualifier toute action militante ou écologiste d'éco-terrorisme. C'est quand même un peu grave. On en entend parler un peu quand même, il y a un peu des contrepoints. Mais en fait, je pense que juste réfléchir à ces deux termes utilisés, je n'ai pas besoin d'expliquer, vous-même, vous voyez où je veux en venir.
Mais d'ailleurs, bah,
on a aussi une émission qui parle sur ce sujet. Oui,
bah oui, où c'est Manon et moi, on animait d'ailleurs, et c'est une émission sur la radicalité, et où on voyait que d'un coin à l'autre, on se rejetait un petit peu le terme de radicalité. Et d'ailleurs, écoterrorisme, ça définit les deux choses. La violence en écologie, pour la cause écologique, et en même temps d'être terroriste contre l'écologie. Mathis, on avait encore quelques questions pour toi. Déjà, est-ce que tu peux nous dire un petit peu aujourd'hui, c'est quoi en fait la réalité de ton engagement ? Comment ça se passe ? Qu'est-ce que tu fais concrètement ? Alors, on est d'accord. Alors, la formulation de ma question n'est peut-être pas appropriée, mais c'est aussi simplement pour pouvoir peut-être donner des idées en fait à les gens qui vont nous écouter.
Ah, tout à fait, avec grand plaisir. Et puis ta question était super claire. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, je suis actuellement le vice-président du réseau étudiant pour une société écologique et solidaire, le RESES. Donc, le poste de vice-président, c'est quelque chose d'assez particulier. Mais le RESES, en général, c'est un réseau de 170 associations partout en France, dans les universités, dans les écoles, dans les campus. On a sûrement une association membre près de chez vous qui est active sur des sujets d'écologie et de solidarité. Et le RESES, nous, on les accompagne dans leurs projets, on les finance, on les accompagne, on a une équipe salariée qui est dédiée, et on porte leur voix au niveau institutionnel lorsqu'on nous demande justement de porter leur voix au niveau international, lors des COP, au niveau européen et au niveau national. Voilà. Et pour donner quelques billes, si vous voulez vous engager, forcément, il y a des associations membres du RESES, sûrement si vous êtes étudiant, étudiante, près de chez vous. Et sinon, il existe pléthore de mouvements et quel que soit le type d'action, hein, ça peut aller, on a parlé de désobéissance civile tout à l'heure, à l'action la plus minime des associations zéro déchet, il y en existe plein, n'hésitez pas à vous renseigner.
Et pour n'importe quel âge.
Et pour n'importe quel âge surtout.
Ok. Mais merci Mathis. Enfin, Marine et Manon se sont interrogées sur la question de l'engagement et du travail. En fait, l'engagement peut-il être valorisé pour trouver du travail ? Le travail, s'il n'est pas lié justement à la cause, peut-il être un frein pour s'engager plus fortement ?
Agissons. Agissons.
Mais genre toi, Marine, tu pourrais parler à un entretien d'embauche d'un blocage ou d'une ZAD auquel tu as participé ?
En vrai, je sais pas, je pense que ça dépend de qui j'ai en face de moi.
En même temps, comme c'est mal vu par une partie de l'opinion publique, c'est compliqué. Puis c'est un choix politique, on ne parle pas politique à un entretien.
Ça montre bien qu'entre les différentes formes d'engagement, il y en a qui semblent plus difficiles à valoriser dans le monde de travail que d'autres. Toi, par exemple, t'as aussi fait un service civique.
Ouais, et en plus, mon père m'avait dit que c'était pas ça qui ferait la diff sur mon CV, et pourtant, j'ai trouvé un taf en lien avec mes compétences et mes valeurs en parlant de mes missions de service civique en entretien. D'ailleurs, toi, tu préfères bien gagner ta vie ou avoir un boulot qui a du sens ?
Bah, honnêtement, je préfère m'engager dans un boulot auquel je crois et dans lequel je peux me permettre de parler de mes engagements librement.
Tu ne dois pas être la seule.
Eh non Manon, figure-toi que je ne suis pas la seule, puisque 76% des millennials, donc les personnes nées entre le début des années 80 et la fin des années 90, estiment que l'engagement social ou environnemental d'une entreprise est un critère plus important que le salaire.
Ah ouais, quand même.
Toi d'ailleurs, qui es dans le monde du travail, est-ce que t'as déjà refusé une mission parce qu'elle ne te semblait pas éthique ?
Ah ouais. On nous avait demandé de communiquer sur l'implantation d'une usine à batterie sur les territoires, hashtag greenwashing, et ça nous emballait pas trop avec ma collègue, alors avec des bons arguments pour justifier notre choix et un petit don pour la persuasion, on y est arrivé.
Bon, attention quand même, ça reste un risque. En fait, sur ce coup-là, la loi n'est pas de notre côté. T'as le droit de refuser une mission si elle correspond pas aux missions pour lesquelles t'as été engagé, mais si ça fait partie de tes missions habituelles, ça peut être une cause de licenciement, donc pas cool. Après, rien ne t'empêche de discuter avec ton supérieur. Un autre truc pas interdit, c'est de travailler dans une asso qui est engagée pour défendre ce en quoi on croit.
comme la MRES par exemple, la Maison Régionale de l'Environnement et des Solidarités, qui est à l'origine du projet Agissons d'ailleurs.
Ah, la MRES, la maman de Agissons. C'est un réseau de plein d'assos, c'est vrai.
118 pour être exact.
Tout à fait, qui sont orientés environnement ou solidarité. Dans nombre de ces assos, il y a des salariés avec des jobs très variés, comme comptable, chargé de mission ou documentaliste. Et pour les gens qui, pour l'instant, sont bloqués dans leur métier actuel, rien n'est perdu. Il y en a qui quittent tout pour faire un job qui a du sens.
Mais grave, et en plus, je connais plein de potes qui ont fait ça. J'ai une copine qui s'appelle Stéphanie, qui bossait dans le web pour une entreprise textile et elle est devenue apicultrice.
Ouais, moi, mon oncle qui bosse dans un journal est en train de se reconvertir pour faire de la permaculture.
J'ai aussi un couple de potes, lui était ingénieur, elle faisait de la communication et ils sont devenus agriculteurs après avoir suivi une formation.
Bon, en vrai, si on regarde bien, tout le monde ne peut peut-être pas faire ça. Les gens qu'on connaît sont quand même plutôt issus de classes supérieures.
Ouais, quand t'as une famille à nourrir et que tu galères un peu à joindre les deux bouts, t'as peut-être autre chose à penser que de te demander si ton métier est éthique. Et en même temps, même si on dit que la reconversion pro pour plus de sens concerne davantage les cadres supérieurs, l'ADEME explique dans un article que les métiers de la transition concernent tous les secteurs et il ne faut pas forcément avoir un bac plus 12 d'un diplôme d'ingénieur pour travailler dans la transition écologique.
C'est vrai, et puis tu peux aussi t'engager à côté de ton taf.
Ouais, mais quand tu bosses 35 heures semaine, voire plus, que tu as des enfants à t'occuper, tu fais comment ?
Ouais, c'est un peu le problème. C'est souvent les jeunes pas encore en emploi et les gens retraités, donc plus en emploi, qui sont engagés dans des assos.
Si on veut être plus précis, selon une étude de l'ENAD, 21% des 65 ans et plus de 23% des 16 à 24 ans ont une activité bénévole au moins une fois par semaine, contre 19% seulement pour les 25-44 et 17% pour les 45-64 ans.
C'est pour ça qu'on veut...
La retraite à 60 ans.
Et pareil, si on expérimentait la semaine de 4 jours, ça laisserait du temps pour ceux qui sont en emploi d'avoir plus de temps pour s'engager. Eh mais on l'a pas déjà entendu ça tout à l'heure.
Ouais, c'est bon, pas grave. On l'a peut-être piqué à Magali, j'avoue. Mais en fait, un autre problème qui existe, c'est qu'on valorise pas assez l'engagement et le fait que ça prenne du temps et que le temps, c'est pas que de l'argent. Pourtant, des initiatives ont déjà été testées et ont plutôt bien marché même.
Ah ouais, tu penses à quoi ?
Bah, je pense notamment à la banque de temps au Japon, Forêt Kipu.
Je connais pas, c'est quoi ?
C'est un peu lointain, mais l'idée en très résumé, c'est que tu donnes de ton temps pour les personnes âgées en particulier, et en échange, tu reçois une unité de temps que tu pourras utiliser pour qu'on te vienne en aide à ton tour. Oh. Je vous laisse faire vos petites recherches plus poussées, mais c'est très intéressant.
Ok, je crois comprendre.
Bon, dans le cas du Japon, ça permet de créer du lien social et de pallier le problème d'une population vieillissante et de valoriser le don de temps pour les autres. Parce qu'il faut quand même le dire, le bénévolat et l'associatif, ça permet aussi à l'État de déléguer certaines de ses missions qui pourraient être des missions de service public. Donc ça a de la valeur. Enfin, c'est un autre débat. Mais on peut imaginer quand même ce genre d'initiative à un niveau plus local et porté sur l'environnement.
Bah, ça me fait penser à Super Quinquin. Tu sais cette épicerie solidaire à Fives où chaque membre vient donner quelques heures de son temps pour tenir la caisse, stocker, réceptionner les livraisons, nettoyer, assurer les tâches administratives pour faire fonctionner la coopérative et en même temps pouvoir faire ses courses. Tout simplement.
Merci les filles. Alors Mathis, justement, est-ce que toi, finalement, tes engagements, tu vas pouvoir les mettre en rapport avec ton travail plus tard ? Là, tu es en troisième année de licence. Je ne sais pas vers quoi, si tu penses poursuivre tes études et à quel point tu vas pouvoir faire coller les deux.
Mais j'espère bien pour faire coller les deux parce que je m'imagine difficilement, de fait de mes convictions et de mes engagements, avoir une vie professionnelle qui est en décalage ou qui n'est pas en lien avec ce que je porte aujourd'hui. Pour l'instant, donc, je suis en recherche de master actuellement. Les candidatures finissent la semaine prochaine. Et je cherche des masters en droit de l'environnement. Donc, je suis en licence de droit et sciences politiques en droit de l'environnement pour ensuite espérer pouvoir passer le concours d'avocat et pouvoir essayer de porter des dossiers de contentieux engagés. J'ai déjà un peu travaillé l'été dernier sur un dossier bien connu avec un géant pétrolier français qui était très très intéressant et j'ai envie de continuer dans cette voie. Et il y a des organismes qui peuvent aider pour trouver des jobs engagés. Je pense notamment à MakeSense, job.makesense, qui est une super plateforme, ou encore, je prêche pour ma paroisse, le site du RESES possède une super page avec plein de jobs engagés et pensés pour les jeunes.
Merci Mathis. Et on arrive déjà à la fin de notre émission. Merci. Il y a des choses qui vous ont marqué particulièrement ? Non, rien du tout. Non, je comprends. Faut digérer. On va digérer et on revient.
N'oubliez pas que toutes nos émissions sont disponibles en podcast sur toutes les plateformes. Que vous pouvez suivre notre activité sur les réseaux sociaux, sur Facebook et sur Instagram. Et on vous donne rendez-vous pour notre prochaine émission dans un contexte très particulier.
Oui, ce sera à la gare Saint-Sauveur pour l'événement Et Demain. Et je laisse le micro à Marine qui va nous en dire deux mots.
Et oui, vous allez pouvoir venir assister au prochain et dernier enregistrement de la saison 5 d'Agissons. On sera présente et présent pour la 12e édition de l'événement Et Demain, organisé par la MRES le 26, 27 et 28 mai prochain à la gare Saint-Sauveur à Lille. Nous, on sera là le 27 mai, aux alentours de 16h, pour parler d'écologie dans les milieux populaires. Mais tout au long de ce week-end festif, vous pourrez entendre parler de low-tech et de sobriété, assister à des concerts et des spectacles, participer à des ateliers et à des rencontres. Nous vous invitons vivement à jeter un œil à la programmation de l'événement que vous retrouverez sur le site de Et Demain. Etdemain.ovh.
Ça va être trop bien, venez nous voir.
Donc notez bien la date, le 27 mai à 16h à la gare Saint-Sauveur. On se quitte en musique avec une chanson que t'as choisie, Magali, pour la fin.
Ouais, je vous laisse avec une super chanteuse qui met toujours l'ambiance en manif à Paris si vous êtes dans le cortège d'Alternatiba. Donc on vous laisse avec Colère de Emma Bitson.
T'as pas vu mes yeux, j'ai les yeux colère. T'as pas vu le feu qui rugit derrière. Une jeunesse au bord des pleurs. Je suis la jeunesse d'un monde sans peur. Le fluide, que tel le phénix, le yin renaisse, des cendres des sorcières, que ce que tu appelles le féminin dégouline, prospère. Nous sommes une lave en éruption, partie brûler toute forme de prédation. Toi le colon en quête de territoire, regarde bien, t'as pas fini d'en voir. Sache que nos armes sont magnanimes, mais tu verras nos moins sanguines. Tu détruis, tu sales et tu rases. Bon plan, ton guéri, on enrage.